Bonjour la direction de France Inter. Je suis viticulteur au pied de la Sainte Victoire dans les Bouches-du-Rhône. Pendant que je taille ma vigne, je vous écoute quasiment du matin au soir, le casque de mon MP3 bien collé sur les oreilles. Le 7-9, esprit critique, service public. J'ai mes sources, le fou du roi. Voilà pour la partie matinale. Ensuite, c'est ma pause repas. Là, je ne vous écoute plus. Et lorsque je reprends le travail, j'ai droit à quelques minutes de 2000 ans d'histoire. Puis c'est la tête au carré. Et enfin, là-bas, si j'y suis. Je dois être maso, non pas à cause des émissions que je trouve de très bonne qualité, mais plutôt à cause de cette réception FM insupportable avec des grésillements presque permanents. C'est vraiment difficile de vous écouter. Il faut vraiment être mordu parce que franchement, ces grésillements sont pénibles. Alors parfois, lorsque les émissions n'arrivent pas à me captiver complètement, je zappe. Et là, j'avoue que c'est agréable de pouvoir écouter des stations sans interférence. Alors je lance un appel à la direction de France Inter. Bon sang, mais faites quelque chose pour améliorer cela. Il n'est pas normal que le service public nous laisse avec des réceptions aussi médiocres. Pourtant, le coin dans lequel je vis se trouve seulement à 20 km d'Aix-en-Provence et à 50 km de Marseille, ce n'est tout de même pas le bout du monde. Comprenez mon désarroi. Un petit message à M. Mermet, lorsque je zappe, je m'arrange toujours pour revenir à 15h pour ne pas vous rater. J'apprécie énormément vos reportages, notamment ceux de la semaine dernière en Corée qui m'ont beaucoup touché. C'est avec plaisir que je vous recevrai, Monsieur Mermet, si vous voulez faire un jour un reportage sur les viticulteurs en Provence.
Voilà, je voulais vous annoncer deux choses quand même importantes. La première, c'est que le gouvernement va certainement essayer de passer en force la loi scélérate OGM, qui a été, et c'est normal, acceptée par le Sénat. Elle a été acceptée parce que le Sénat se demande leur intérêt, la France ou alors la valise. Mais il va essayer de passer par, donc, décret cette loi en l'édulcorant de telle manière qu'elle soit encore plus gentille pour les fabricants d'OGM. Merci pour la nature, merci pour les paysans français. Monsanto est en train d'écrire actuellement à tous les conseillers de l'Élysée, tous les conseillers de tous les ministères, pour demander que l'on cache les adresses actuellement de les adresses des essais et les adresses de semis, donc, d'OGM. Encore une fois, en faucheton, comme ça avait été dénoncé dans quatre émissions de 90 minutes pour convaincre, l'enquête interdite. Voilà. Je suis très ému, je suis écœuré. Si ça se passe comme ça, ça voudra dire simplement que Sarko est encore un menteur, que Sarko, à mon avis, a des intérêts qui sont en tous les cas pas ceux de la France, parce que ses potes font passer quelque chose, véritablement, semble-t-il, en catimini, comme ça, un peu de manière cancrelatesque. Merci, c'était Gérard, le papy écolo en colère. Salut.
Salut Daniel, c'était juste pour revenir sur ce que proposait notre ministre de l'Intérieur, à savoir les peines planchers. Juste pour expliquer un petit peu de quoi il s'agit, en cas de récidive, le juge n'aurait plus de pouvoir d'appréciation quant à la peine, c'est-à-dire qu'automatiquement, une peine ferme tomberait. Il faut juste savoir que l'individualisation de la peine, la personnalisation de la peine, est un principe qui a été inventé au XVIIIe siècle, la fin du XVIIIe siècle, et depuis, l'on n'en a jamais démordu. C'est le principe, un des principes fondateurs, cardinaux de la justice, puisque c'est le juge qui apprécie la peine en fonction de la personnalité. Remettre ça en cause, c'est revenir avant les lumières, c'est-à-dire dans l'ombre, dans l'obscurantisme le plus complet. Voilà ce que nous propose aujourd'hui Nicolas Sarkozy. Il faut savoir que le principe des peines planchers a déjà été mis en œuvre aux États-Unis dans certains États où, au bout de 3 condamnations, on va 30 ans en prison pour un vol de CD, pour un vol de briquet. C'était Pierre de Toulouse.
Je téléphone pour annoncer un nouveau repère de la base où j'y suis, à Longwy, à la frontière entre le Luxembourg, la France et la Belgique, donc c'est à Longwy, bas, juste à côté de la mairie, et ça s'appelle Les Termes. C'est à bar sympathique avec un restaurant à côté, une discothèque à côté et tout. Et c'est là que ça va se passer, donc les repères de l'Ennui, à partir du 1er mars, jeudi, 19h. Les détails vont suivre bientôt. À bientôt, salut et bonne continuation.
Merci pour les messages, amis modestes et géniaux, auditeurs modestes et géniaux de là-bas, si j'y suis, toujours en Chine, toujours à Pékin. Et vous pourriez, si vous étiez à Pékin, mais si vous êtes n'importe où dans le monde, eh bien, être en train de déjeuner ou dîner agréablement dans un restaurant en utilisant des baguettes et vous portez au pied et baskets. Baguette et basket, et puis vous portez des vêtements de la marque Montaigu, vous voyez cette marque dont on voit souvent le sigle dans certains aéroports, un peu partout à travers le monde. Et puis vous portez aussi une casquette, et puis vous mangez des crevettes avec vos baguettes et vos baskets. Eh bien, dites-vous que tous ces produits, tous ces ustensiles, toutes ces affutios, peuvent tout à fait avoir été fabriqués par des détenus dans les prisons chinoises. Dans beaucoup de prisons chinoises, en effet, on fait travailler les détenus gratuitement, bien évidemment, et ces prisons, eh bien, ne sont pas tout à fait des prisons, ce sont des entreprises, ou plutôt des entreprises-prisons ou des prisons-entreprises, dont les directeurs sont vus comme des patrons et gèrent leur prison exactement comme des entreprises, à cette différence près, tout de même que les employés, les travailleurs, ne coûtent pas un sou. Voilà. Et c'est étendu à toutes les prisons, ou presque toutes les prisons chinoises, que les détenus soient des droits communs ou des détenus politiques. On ne sait pas exactement combien de détenus à travers cet immense pays, mais ça fait quand même une masse de travailleurs gratuits qui contribuent à au boom économique chinois. C'est un petit détail, bien évidemment, dont nous aurons l'occasion de reparler. Aujourd'hui, on va retrouver un personnage, une dame, qui était passée il y a déjà un certain temps nous voir à la base si j'y suis, et on va retourner se promener quelques instants avec elle dans sa vie et ses jours et ses nuits. Juste après les messages que voici, choisis parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, et que j'ai écouté depuis la lointaine Chine et depuis Pékin, spécialement, pourtant ce n'est pas l'automne à Pékin.
Monsieur le Premier ministre, de combien allez-vous augmenter le SMIC? Moi, je suis payé au SMIC, avec d'autres collègues, je ne parle pas tout seul. Ben, on n'a pas un salaire mirobolant. Avec déjà les déplacements pour aller travailler, en voiture, c'est embêtant, parce que moi je fais Cône-Juin, tous les jours en voiture. C'est bête, je ne peux pas prendre le train. Comme je commence à 5h du matin, bon, je me lève à 3h30. Sans ça, je prendrais le train. Mais si je compte tout l'argent que je mets dans l'année pour aller travailler, mais c'est affreux, de l'argent qu'on gaspillait à mettre dans la bagnole. Déjà que je travaille, bon, je travaille dans l'automobile, secteur automobile. J'ai un papier que j'avais trouvé dans François, que l'automobile finira comme le textile, à la clé. 1 million de chômeurs en plus dans toute l'Europe. J'ai vu encore à Cône-sur-Loire, il y a une usine qui travaille pour l'automobile, ils sont très inquiets. Tous les sous-traitants, mais dans les journaux, ils annoncent 4000 suppressions d'emplois pendant 4 ans dans la sous-traitance automobile. En ce moment, ça va pas fort. On sait même pas quelles sauces vont être mangées. Tout le monde en parle tous les jours, même où je travaille, à l'usine. Tous les jours. On sait même pas si ça va durer. Je comprends, les gens, ils sont désespérés, on peut pas trouver de boulot. Alors qu'il y en a qui disent que oui, il y a du travail, faut avoir, si on n'a pas de qualification, comment voulez-vous qu'on puisse trouver un travail? C'est pas facile, si facile que ça. Ça, c'est un disque qui date des années 30 encore. Les gens, oui, ils veulent pas travailler. On connaît la musique. Hein. Ces gens-là, ils seraient comme nous, à faire des boulots vraiment pénibles. Y en a qui faudrait qu'ils arrêtent de raconter des conneries. Hein. Qu'ils soient à la page. Et s'unir, pas se diviser, comme il y en a qui font actuellement. On essaye aussi de diviser les gens. Hein, le gouvernement essaye aussi de diviser les gens. Francis, consoleur.
Salut, c'est Daniel Mermel. Ah ben, si j'y suis avec Anne Rioux, Irène dans son camion.
Flight number 2. Arriving from New York.
Bonjour. Ah, ça va?
Ça s'est bien passé.
Oh, vous êtes toute pimpante.
Ah oh ben, je me suis un peu arrangée, hein, je vous ai dit quand même.
Bonjour. Bonjour. Non, elle dit bonjour, elle est gentille. Elle n'aboie pas?
Non, elle est adorable.
Ah oh ben, évidemment, quand je suis arrangée, ça change. Hein. Pardon, rentrez. Il faut pas me voir le matin dans ma salle de bain.
Eh ben, parce que...
Vous êtes allée chez le coiffeur? Oui, je suis allée chez le coiffeur. Mais et encore, je ne suis pas bien coiffée parce que j'ai pas ma couleur que j'ai d'habitude. Je me laisse un peu les cheveux reposer parce que je me fais plutôt un genre, un blond un peu plus agressif, enfin des mèches quoi. Mais bon, j'ai dit, reposons les cheveux. Rentrez.
Ah, ma fifi, tu faisais du souci, toi aussi.
Voilà. Mettez-vous à votre aise, oui. Vous asseyez.
C'est le bins,
quand on vit seul.
Voilà. Je suis dans la merde.
Ah, ben bien sûr. Ben je suis dans la merde parce que je peux pas aller travailler parce qu'ils sont toujours là, les gitans. Figurez-vous que j'avais eu un petit espoir. Voilà le journal de samedi.
Vous n'avez pas des infos par vos collègues? Vous êtes obligé de lire ça dans le journal?
Oui, mais moi je fréquente personne, moi, vous voyez, on se... Non. Et puis, mon chauffeur est allé faire un tour ce matin. Il m'a téléphoné tout à l'heure. Il me dit, ils sont toujours là. Voilà. J'ai dit, il ne faut pas croire qu'entre nous, il y a une solidarité. C'est pas vrai. Hein. Tout le monde se bouffe le nez. Tout le monde, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Les places sont chères. Et c'est à qui fera une vacherie à l'autre.
Hein. Ah oui, mais il n'y a pas une copine
non,
qui peut...
Non. Il y en a une qui travaille avec moi, mais ça faisait quelques jours qu'on ne la voit pas. Et puis, bon, maintenant, on se parle. Mais on est resté longtemps sans se parler.
Il n'y a pas de solidarité.
Ouais. Dans le temps, il y en avait, mais plus maintenant. Oh là.
Quelle musique pour accompagner l'histoire d'Irène? Quelle musique on aurait pu choisir pour accompagner cette histoire? Irène, Fanfan, c'est Pépette. Pépette, ou Fanfan, c'est le petit chien d'Irène. Quelle musique? On aurait pu choisir une musique gaie, ou triste, de l'accordéon, du violon, du pipeau, ou bien une rumba de samedi soir, une valse pour glisser comme sur une toile cirée, un slow pour néon se reflétant sur un trottoir mouillé avec des talons aiguilles trop tard, ou une java désenchantée ou un piano famélique, ou alors quelque chose de classique avec plein d'adagio d'Albinoni et des traces de rouge à lèvres sur un mouchoir en papier. Ou alors une musique de gitan, puisqu'elle a parlé de gitan. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de gitan ? Ou alors, celle que vous entendez cette musique, basse, guitare, et... Ouais, ça ressemble aussi. Ça ressemble un peu à ce que vous voulez. Parce que c'est une vie. C'est une vie tout simplement. En une heure, il y aura toute la vie d'Irène. Dans un camion. Ouais, dans un camion. C'est là qu'elle travaille, Irène, dans un camion. Et c'est là qu'on va passer cet instant avec elle et qu'on va écouter la vie d'une femme dans le siècle dernier et un peu aussi sur celui-ci avec des hauts et des bas. Vous verrez aussi les bas dans votre petit transistor et dans le camion d'Irène. En tout cas, c'est la musique qu'on a choisi.
Si vous le rencontrez, bizarrement paré, traînant dans le ruisseau un talon déchaussé, et la tête et l'œil bas comme un pigeon blessé, messieurs, ne crachez pas de jurons ni d'ordures au visage fardé de cette pauvre impure que déesse famine a par un soir d'hiver contrainte à relever ses jupons en plein air. Cette bohème-là, c'est mon bien, ma richesse, ma perle, mon bijou, ma reine, ma duchesse.
Un forcené tue sa femme à coups de fusil, il blesse grièvement la fillette de celle-ci et joue ensuite la comédie du suicide. Alors, vous voyez, en gros titre, c'est une photocopie. Alors, puis ça, c'est moi. Moi, vous voyez, c'est moi, ça.
Vous aviez quel âge ?
8 ans. C'est ma maman, vous voyez, qui est là-haut. Vous la voyez, là-haut ?
En photo, là ?
Là-haut, oui, là-bas derrière. Mmh. Elle est allée au bal avec sa sœur. Elle s'est fait... Elle a eu des rapports avec un gars très bien du bal, quoi. Et puis, elle est tombée enceinte à 15 ans. C'est une histoire digne c'est du Zola, quoi. Parce qu'on n'était pas riches. Donc, ma petite mère, elle s'est trouvée veuve à 20 ans, avec moi qui avais 5 ans sur les bras. Et comme on n'était pas riches, son frère aîné, vous voyez, a absolument voulu la faire marier avec un type qui ne lui plaisait pas, un copain, lui. Une vraie ordure, vous voyez. Alors, bon. Et donc, il nous battait. Moi, il me battait parce que j'étais issue d'un premier mariage, enfin. Et un beau jour, il l'a emmerdée toute la nuit parce qu'elle voulait pas venir coucher avec lui. Puis il est venu avec son fusil de chasse. Il avait toujours ce fusil à la main, mais un gros fusil. Hein. Alors donc, il est revenu, il l'a tué devant mes yeux. Oui, il l'a tué devant mes yeux. Vous savez ce que c'est que de voir tuer sa mère devant ses yeux pour une gamine de 7 ans. Il l'a abattue comme ça, elle est tombée raide avec de la... dans le sang. C'était horrible. Moi, j'adorais ma mère. Il est revenu sur moi. Je m'en rappellerai toute ma vie. Pour ça, j'ai beaucoup de difficultés à en parler. Et il est revenu. J'étais dans le lit. Il m'a mis en joue. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vu la mort, moi, vraiment. Et j'ai mis mon bras comme ça. Vous voyez, quand c'est pas son heure. C'est un bras de petite fille qui vole en éclats comme ça. Et voilà. Et il tirait des coups de feu de partout. Et donc, je suis allée secouer ma pauvre maman. J'ai vu qu'elle était morte. Et je me suis sauvée dans la rue, comme ça, dans cet état. Et je dois ma vie à un brave type, un chauffeur de taxi. Je m'en rappellerai tout le temps. Et ils m'ont emmenée dans une clinique. Et puis, d'urgence, ils m'ont opérée. Je suis restée entre la vie et la mort pendant plusieurs jours. Hein. Et donc, ils ont été obligés de me couper le bras. J'ai le bras qui est coupé, là. Hein. Vous ne l'avez pas vu ? Oui, mais enfin, vous ne m'avez pas dit.
Non, on ne sait pas, vous mettez un vêtement large.
C'est-à-dire que oui, puis j'ai une prothèse, maintenant je mets un vêtement large, et puis je n'aime pas en parler. Quoique maintenant, ça me dérange moins sur la fin de ma vie. Mais enfin, les gens m'ont tellement emmerdé avec ça. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce que c'est? C'est rageant, vous voyez. Pas les clients, c'est drôle, il y en a qui s'en aperçoivent même pas. Vous voyez ce que je veux dire?
Vous commencez à vous faire une idée de quelle est l'activité d'Irène. Et vous voyez un peu quelque chose de sa vie. Pourquoi est-ce que Irène raconte sa vie comme ça, à raconter sa vie à Anne. On a déjà une indication quand elle dit « Oui, mais maintenant, vers la fin de ma vie, je commence à... C'est plus pareil. Ouais, » il y a un moment, ça vient, ça, dans la vie, où on se dit « Mais quelle vie j'ai eue ?» et on éprouve le besoin de la raconter. Dire après tout, bien, mal, réussi ou pas réussi, c'est ma vie, c'était ma vie. Et c'est cette vie que qu'Irène nous raconte.
Alors, ses sœurs... Bon, elles m'ont donné une éducation, mais alors les sœurs... Oh là 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 là, c'était... Bon, elles m'ont endoctrinée avec Dieu. Mais alors, c'était sans arrêt des prières, des sacrifices, des ci, des là. Mais elles vous apprenaient pas la vie. Elles vous a... Alors, il fallait pas parler d'éducation sexuelle, mais rien du tout. S'il y avait des hommes en short qui se promenaient, il fallait pas les regarder, c'était un péché mortel. Voilà ce qu'on recevait comme éducation. Et moi, j'ai été faussée, là, vous comprenez ce que je veux dire. On nous apprenait rien, ni comment venaient les enfants, ni ceci, ni cela. On voyait des fois deux, trois petites filles ensemble qui parlaient pas de rien du tout. Moi, j'avais deux bonnes copines. On n'était pas des lesbiennes, des gouines et tout ce qui s'ensuit. On savait même pas que ça existait. Mais tout de suite, des amitiés particulières. On était punis, on se demandait pourquoi. Et à 15 ans, ma bienfaitrice m'a fait revenir pour me placer dans un pensionnat, je crois qu'il existe toujours. Mais moi, je voulais connaître un peu la vie. Je voyais mes cousines qui dansaient, tout ça, les bonhommes et tout. Alors, je disais, mais bon, et toi ? Enfin, vous comprenez ce que je veux dire ? T'es bien pareil, dans le fond. C'est, j'étais jolie, mais je pouvais pas, vu mon bras, tout ça, j'étais complexée. Non, c'est un gars que j'avais rencontré dans un train, hein, qui était marié, d'ailleurs, que je l'ai su après. Et alors, donc, il m'avait entraînée à l'hôtel et comme une imbécile, je l'ai suivie. Mais par curiosité, je savais pas ce que c'était. Je voulais voir, vous comprenez, je voulais voir. Je voulais voir, c'est tout. Puis je voulais voir si j'étais capable de plaire à un bonhomme, parce que j'étais quand même complexée un peu par rapport à ce qui m'était arrivé. Il m'a baisé, m'a enlevé mes jupes, ça m'a rien fait du tout. Alors... C'est comme ça que je me suis fait baiser sans savoir qu'on pouvait avoir des gosses. Comme ça, je suis tombée enceinte de ma petite fille. Voilà. J'ai caché ma grossesse jusqu'à l'âge de 6 mois. Et puis les nonnes, elles avaient remarqué que je grossissais, je prenais des malaises à la chapelle. Alors elles avaient remarqué que je n'allais pas dans le petit placard me prendre des serviettes, vous comprenez, hygiéniques. Elles contrôlaient tout ça. Alors donc, je me rappelle, j'avais des chaussures de ski, c'était la mode des chaussures de ski. Tout de suite après la guerre, j'avais été vendre mes godasses à un cordonnier pour aller au médecin. Il m'avait dit, vous êtes enceinte. Et le médecin, ils ont un secret professionnel, mais il s'était mis à table quand même, vous comprenez. Il avait été le raconter à la pension. J'ai dit, ben oui, je suis enceinte. Oh là là, catastrophe. J'avais 17 ans, 18 ans. Et puis bon, j'ai accouché d'une jolie petite fille, elle était adorable, j'adorais ma petite fille. Je me rappelais du nom de ce mec. Je l'avais jamais revu.
Le père de votre enfant.
Alors j'ai pris des initiatives, j'ai écrit dans un commissariat de police, j'ai dit, j'explique toute mon affaire. C'était bien, j'étais naïve. Hein. Alors j'explique, voilà, je voudrais retrouver le père de ma fille. Oh! Peut-être 8 jours après, je ne sais pas ce que les flics ont fait, ils ont dû faire leur enquête. Je vois arriver un bonhomme à la maison maternelle affolé. Un blond, vous voyez, c'était bien lui, mais alors il me dit, c'est moi. Alors il me dit, est-ce que je peux voir ma fille? Il était bouleversé, ce pauvre homme. Alors je lui ai fait voir. Oh. Et moi, ce qu'il ne m'a pas dit, je ne le savais encore pas, il était marié, on est compte, bouleversé. Il m'a dit, bon, bah, écoutez, je vais vous aider, je vous écrirai. Bon, il est parti, plus de nouvelles. Tiens, bonjour, je reçois une lettre de sa femme, une grande lettre. Enfin, il avait dû avouer à sa femme. Alors, une grande lettre, des pages et des pages, quoi. Je ne me rappelle plus ce qu'il y avait dedans, quoi. Alors, en me disant que son mari, enfin, qu'ils allaient m'aider, patati, patata. Eh bien, alors après, elle me disait toujours de monter à Paris. Et j'ai atterri à Paris. Et moi, j'avais jamais mis mes pieds à Paris. Alors donc, ils m'ont mis dans une chambre d'hôtel. Ça a duré 8-10 jours, il me payait à manger et tout, mais il faisait la gueule parce qu'il n'y arrivait pas, vous comprenez. Et un beau jour, il m'a acheté son trottoir. Comme ça. Il m'a dit, on en a marre, débrouillez-vous, on ne peut plus. Avec la petite fille. Voilà. Et il m'avait donné, je ne me rappelle plus la valeur de, je ne sais pas, peut-être de 500 francs, vous voyez, de 5 francs. Et je me suis retrouvée, mais c'est vrai ce que je vous raconte, je fabule pas. Je me suis retrouvée comme ça, sur le trottoir, avec cette petite dans les bras. Et c'est comme ça que j'allais coucher dans les asiles de nuit, de partout, enfin. Et un beau jour, elle est tombée malade, j'allais coucher avec elle dans les asiles de nuit. Puis après, quand j'ai plus pu, je l'ai posée en dépôt à l'assistance rue d'Enfer Rochereau. Vous voyez, je pouvais plus, hein. Mais en dépôt, simplement. J'ai dit, voilà, je l'amène et tout. J'ai dit, mais moi, je suis à la rue, je peux plus. J'avais un chagrin fou, inutile de vous dire, j'avais un chagrin fou. Mais j'allais voir ma petite fille, j'avais le droit de visite et tout. Vous voyez, hein, je ne l'avais pas abandonnée, j'allais. Et donc, c'est de là qu'elle a contacté une maladie, une mastoïdite et tout, et qu'elle est morte à l'hôpital de Rolde à Paris. C'est horrible. J'ai eu du chagrin, vraiment. Je me suis trouvée à Paris dans une situation épouvantable. Et donc, je ne savais même pas ce que c'était qu'une prostituée. Je me rappelle que je passais rue Saint-Denis, je les voyais, je les regardais avec des grands yeux tout ronds. Et je me faisais aborder par des hommes, mais pour me faire offrir à boire et un sandwich, vous voyez ce que je veux dire. Mais je ne faisais pas l'acte, quoi. J'étais toute gamine, il y en a qui me disaient, mais tu vois, toutes ces femmes, elles se font payer, tu devrais faire pareil, vous comprenez?
Oui, sauf que vous ne compreniez pas.
Ben, je comprenais pas, non, je comprenais vraiment pas. Moi, j'ai été chez les sœurs qui nous racontaient que les gosses sortaient par le nombril, voyez, que des choses, on priait Dieu, etc., etc. L'éducation qu'on a reçue, ça nous a faussé tout à fait l'esprit. Et alors donc... Quand on m'a dit « ces femmes font comme ça et comme ça, tu devrais te faire payer, tout ça ». Alors un beau jour, j'en avais marre, j'ai essayé, vous comprenez. Je me suis fait... Quand j'y pense, je rigole, parce que qu'est-ce qu'on écoute. Alors je me suis fait aborder 3 fois, alors je faisais celle qui, comme une grande professionnelle, alors que j'y comprenais rien du tout, et les gars, ils ont tout de suite vu à qui ils avaient affaire. Bon, je voulais me faire payer avant, il ne voulait pas, je te donnerai après. Après, il se tirait, vous comprenez. Je me suis fait baiser 3 fois à l'œil, premier jour. Et j'ai rencontré un gars, c'était un pompier de Paris. Qu'est-ce qu'il a été gentil. Il a vu vraiment que j'en pouvais plus, quoi. Alors, il m'a emmené à l'hôtel, il ne m'a pas touchée. Il m'a dit, écoute, tu ne peux pas continuer comme ça. Il me dit, viens, je vais t'emmener quelque part où on va t'expliquer comment il faut faire. Il m'a emmené dans un hôtel à la Bastille, rue Jean Beausire. Et donc, les patrons, c'était 2 braves gars, je ne sais même pas si c'était pas des Auvergnats, qui tenaient un hôtel de poste, quoi. Mais enfin, j'étais contente, oui et non, parce que je ne me sentais pas bien, quoi. Et alors après, il se trouve que je me suis retrouvée enceinte. Je ne sais pas de qui, des clients que je faisais, là. Comme à ce moment-là, il n'y avait pas la pilule, il n'y avait rien du tout, hein. Il n'y avait pas du tout de... Je me suis trouvée enceinte. Alors, quand je me suis trouvée enceinte, j'ai eu un fils, non, mais avec qui je ne m'accorde pas du tout. Alors, bon, n'en parlons pas. Et puis après, ben, tout, quand on a vu que j'étais enceinte, tout le monde m'a laissé me débrouiller. Puis voilà, c'est comme ça que j'ai suivi la filière. Voilà. Mais figurez-vous qu'à l'époque, on ne gagnait pas tant d'argent que ça. D'ailleurs, à Paris, on n'en gagnait pas beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on gagnait de l'argent à l'époque, parce qu'il y en avait de l'argent. Mais les flics, ils nous foutaient en tôle, c'était dur, vous comprenez. Alors, on n'avait pas le temps de rien gagner, parce qu'ils nous prenaient en racolage. Et c'était autrement dur que maintenant, que la loi Sarkozy. Hein.
C'était plus dur?
Oh, oh, ça se compare même pas. Et hop, en tôle. Directement en tôle, hein. Moi, j'y suis allée 8 fois en prison. Et le maximum que j'ai pris, c'était 1 mois. Alors, on n'avait pas le temps de gagner de l'argent. On rentrait, on sortait de prison. Tout. Puis après, on nous a foutu la paix. On pensait, si on respire, en 77-78, et après, Mitterrand est venu au pouvoir, en 80. Ah ben alors là, ça a été le bonheur parfait. Là, on a gagné de l'argent. Voilà, c'est les années Afrique. Alors là, on en a gagné. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On en a profité. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis dépensière, comme tout le monde. Je m'habillais bien. On partait en vacances, en week-end, tout ça. Vous voyez, c'était le... On dépensait notre argent, quoi. Moi, c'est ce que j'ai fait, alors. Comment voulez-vous en avoir de côté? Mais je regrette pas, j'en ai bien profité. J'ai passé du bon temps. Ouais. Parce qu'après, j'ai mon ami qui est tombé malade et tout. Je m'en suis bien occupée, je l'ai bien assisté. Après, quand il est mort, j'ai eu beaucoup de chagrin. J'ai acheté sa tombe, tout. Et puis après, j'avais tellement de chagrin que j'ai claqué tout mon fric. Vous voyez, pendant des années, pendant 4 ans, j'ai même pas mis mon couvert ici. Alors, mon couvert pour manger, toute seule, vous voyez. Parce qu'avant, j'ai eu une vie de couple. On me faisait à manger, tout. J'étais heureuse, quoi. Voilà, c'est tout.
Vous avez vécu ici, dans cet appartement?
Bien sûr. Il est mort dans le lit, là-bas. Ben alors. Eh oui. Ça fait 17 ans. C'était en 88. Et pour moi, c'est comme si c'était hier. Il me manque autant qu'hier. On partait en vacances. C'était pas un macro, c'était un sommelier. Et la toile cirée, elle a jamais bougé depuis 17 ans. Elle est pas pourrie, mais presque. Je l'ai jamais changée. Parce que c'est là où on mangeait tous les deux, vous voyez. Avant, j'avais une maison qui était impeccable, nickel, tout, coquette. Bon. Mais j'ai jamais changé de toile cirée.
Et là, c'était sa chaise?
C'était sa chaise. Comme disait, c'est Lamartine qui disait, ou Victor Hugo, je me rappelle plus. Objets inanimés, avez-vous donc une âme? Vous connaissez? Qui s'attache à votre âme et la force d'aimer. C'est magnifique. Ouais.
Et vous avez une photo de lui?
Oh, j'en ai plein, là. J'ouvre jamais ces trucs à photo, là, parce que ça me... Attendez-vous, je sais pas. Oula, merde. Attends, ça, c'est les vieilles photos. Il était beau comme un dieu, il était gentil comme tout, mais il buvait trop de canons. Tenez, regardez-le, là. C'est surtout qu'il fumait trop de cigarettes. C'est ce qui l'a tué.
Ça a duré 14-15 ans, c'est ça?
Oui. Puis je l'ai bien gardé, parce que j'en étais follement amoureuse. Quand il partait, c'était un déchirement. Parlons pas simplement du lit, il y a autre chose, quoi.
Bah oui, bien sûr.
Il était gentil avec moi, il me considérait bien. On allait au resto ensemble, on partait en vacances, puis il était plein d'attention.
Et apparemment, il était très amoureux.
Oui, il était amoureux de moi. Il voulait pas que ça soit dit, mais il l'était.
Il voulait pas que ce soit dit?
Ben, c'est-à-dire, il me disait, si, des fois, il me prenait dans ses bras, il me disait, je t'aime, ma chérie, le pauvre. Ou il me disait, t'as des jolis yeux, vous voyez, des petits trucs comme ça. Mais on s'engueulait beaucoup, parce que moi, je l'engueulais, parce qu'il allait au bistrot avec les copains, vous comprenez? Alors, je gueulais comme un âne, et puis, voilà.
Et lui, ça lui posait pas de problème, le métier que vous faisiez?
J'ai l'impression que malgré tout, ça le dérangeait un petit peu, mais il le faisait pas voir. Il était toujours en train de me défendre, ma grande par-ci, ma grande par-là. Vous savez, il était fier de moi, alors que, vous voyez ce que je veux dire? Alors que j'ai connu des hommes qui voulait pas sortir avec moi, vous voyez ce que je veux dire, qui avait presque honte, mais lui, non, il était fier. Il était à l'aise, on allait dans les grands restaurants, penser sommelier, maître d'hôtel, il était plein d'attention, des trucs qu'on remarque quand même et tout. Il disait, oh ma grande, ça me fait suer de l'avoir comme ça, il faudra qu'elle s'arrête et qu'on trouve une solution, vous voyez, le pauvre.
Vous l'avez jamais remplacé?
Jamais. Jamais, jamais. Le sexe, ça n'a rien à voir avec, avec les sentiments, le cœur et tout. Ça n'a rien à voir. Alors, ben là, ce qu'on nous reproche à nous, c'est parce que c'est du sexe payant. Voilà. Comme si on était des infirmières, quoi, par le fait. Vous voyez ? Ben, allez faire comprendre ça des têtes de nœuds comme il y en a, là.
Écoute donc, chérie, viens donc par ici, le boulevard est sombre. Regarde comme c'est noir, on ne peut rien voir, c'est tout rempli d'ombre. T'as l'air distingué, oh, t'es pas un fauché, t'as une gueule qui me botte. Chérie, ben écoute donc, t'en vas pas, voyons, chameau, v'là qui se trotte. C'est honteux, s'affiche le camp sans rien entendre. Je ne sais plus vraiment ce qu'il faut leur dire. 3 heures que je suis à trimarder. J'ai battu 20 fois tout le quartier et rien à frire. Bon Dieu, je ne suis pourtant pas ballot. Et quand s'agit d'être au boulot, je ne suis pas une chiffre. Qu'est-ce que j'ai pu faire à l'amour pour que la poisse depuis 8 jours me serre dans ses griffes. Écoute donc, chérie, viens donc par ici, le boulevard est sombre. Regarde comme c'est noir, on ne peut rien voir, c'est tout rempli d'ombre. T'as l'œil polisson, ah, tu dois être mignon, toi, hein, quand tu nous embrasses. Chérie, bah écoute donc, bah t'en vas pas, voyons. Va donc. Et carcasse. Des fois je pense faudrait mieux crever. La femme ne peut jamais se relever de sa première chute. Et de chute en chute, elle va cherchant à se cramponner jusqu'à ce qu'on la rebute. Elle donne son cœur contre un serment confiante aux promesses d'un amant qui la transporte. Quand l'amour n'est qu'un grand bazar dont les rayons sont au hasard remplis de Camelot. Écoute donc, chérie, viens donc par ici. Ah, ils se cavalent en douce. Ils sont bons à tuer, à vous dégoûter d'en fiche une secousse. Oh, le temps n'est pas chaud, brouh, ça vous pique les os, et j'ai la tremblote. Mes pauvres pas sont lourds. Oh, crêpe-cochon d'amour. Oh, mince, v'là qui flotte.
Ok, vous êtes prête ?
Oui, je suis prête, ça y est.
Vous avez tout préparé pour travailler ?
Oui.
C'est tout dans mon camion. Ok, hein? et votre chien ?
Ne t'inquiétez pas.
Oui, oui, elle vient.
Allez-y. Viens vite, mon bébé.
Comment vous l'appelez ?
Fanfan. Mm-hmm.
Allez-y.
Oh, écoutez. Quelle histoire. Fermer la porte. Attends, viens là, viens mon petit chien, viens.
On monte.
Attends, attends, Fanfan.
Qu'est-ce que c'est comme chien ?
C'est un mélange. Son papa, c'était un York. Et sa maman, elle était issue d'un croisement d'un chichou et d'on ne sait pas quoi. Ça fait une petite bête, quoi. Elle est très mignonne. Elle est plus gentille. Elle a 5 ans et demi. Je vais doucement m'en commenter parce que j'ai fait une grosse crise de dos il n'y a pas longtemps. Alors, l'escalier et moi, on n'est plus copains.
Alors voilà Irène. Irène et Fanfan, petit chien, qui est un mélange d'un petit peu tout, quoi. Et puis, on va vers le camion. On va vers le camion d'Irène. Vous avez compris que Irène travaille dans son camion. Ce qui la gênait un peu là, c'est que à l'endroit où elle travaille, dans la banlieue de cette ville du sud, eh bien, il y a des gitans qui s'étaient installés. Ah oui, ça arrive. Mais là, chance, eh bien, ils sont repartis. Donc, Irène va pouvoir travailler et nous raconter la suite de son existence difficile.
C'est avec vous qu'elle travaille tout le temps ?
Ouais. On se dépanne mutuellement, ouais.
Oui, quand je traverse mon quartier, pour éviter de trop me faire remarquer, je tire les rideaux. Parce que, bon, les gens, vous savez comment ils sont, hein.
Mais en fait, oui. Sur le camion, il y a une affiche « Personne handicapée ».
Ben, c'est parce que je suis handicapée. Mais je l'enlève quand là-bas, quoi. Mmh.
Mais en fait, les gens de votre immeuble vous connaissent bien ?
Oh, ils me connaissent, oui. Mais enfin, personne ne me fait de réflexion. Oh, ben je m'en fous des voisins. Vous savez, depuis le temps que j'habite là, hein, les voisins, ce qu'ils pensent, hein, si vous saviez. Hein. Oh là là. Et puis de toute manière, je suis tellement distante que, vous voyez, d'office, la barrière se fait, quoi. Bonjour, bonsoir, moi ça fait 35 ans que j'habite dans la maison. J'ai jamais eu une réflexion désobligeante sur ce que je fais, où je vais, etc. Non, moi je me trimballe en mémère, moi, dans mon quartier, je le fais exprès. Tenez, regardez, ils foutent le camp, tant mieux. Oh là 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 là, Dieu soit loué. Voilà qu'ils partent.
Ben voyez, vous allez pouvoir retravailler.
Oh ben tant mieux, dites donc. Ah, je commence à me faire du souci, hein. Vous comprenez ? Moi, c'est mon gagne-pain, malheureusement. J'ai rien d'autre pour vivre, hein. À part ma maigre petite retraite de 599 euros par mois. Alors avec ça, je vais pas loin. Ben ma retraite d'handicapé adulte mélangée avec j'aime pas bien en parler. Parce que hein, bon, ouais. Je suis plutôt jeune, mais c'est pas encore la question. J'arrive encore à avoir quelques clients, quelques habitués, mais c'est surtout la concurrence, vous voyez. Des femmes qui font le même métier que moi sont ou africaines ou slaves ou, vous voyez, ça vient de partout, ça vient de l'Est, ça vient d'Afrique, il y en a énormément. Elles ont plutôt tendance à casser les tarifs en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez.
Mais alors, les tarifs, c'est combien en ce moment?
Ah, vous voulez tout savoir? Mais si, je vous le dis, moi, si vous voulez. Alors, pour une fellation, hein, vous savez ce que c'est qu'une fellation? Non? Non? C'est 20 euros. Et pour l'acte, c'est 40 euros. Mais quelquefois, il nous arrive de composer si on a des clients qui sont un peu gênés. Voyez, bon, tergiverse un peu le prix, 30 euros, 35 euros, en fait. Tout le monde plus ou moins le fait, voyez, voilà, c'est tout.
Ça, c'est aussi la concurrence qui fait qu'on casse les prix aussi, c'est ça.
Exactement. Avant,
ça fait combien de temps maintenant que vous êtes obligé de casser les prix?
Oh, ben depuis qu'on a eu tous ces arrivages d'étrangères, là. Exactement, oui, ça a beaucoup changé, hein, vous savez. C'est la mondialisation, voilà. Ils souffrent beaucoup du coût de la vie, hein, nos clients. C'est pas des PDG qui vont voir les call girls de haut niveau, hein. C'est le français moyen qui en bave, hein. Ils nous racontent tout. Ils nous racontent leur malheur. Ils nous racontent pour payer leurs factures. Voyez comme ils s'envoient tout ça. On sent vraiment que c'est pas parce qu'ils sont radins. C'est parce qu'on sent que c'est vrai. Ils peuvent pas.
Vous savez, quand j'en ai fait 5 ou 6, j'ai fait une très bonne journée. Mais c'est très souvent que j'en fais 1, 2 ou 3. C'est tout. Alors, vous savez, c'est pas l'Amérique. Hein. Non, mais je sors jamais de mon, voyez, de mon véhicule. Je reste comme ça, la porte entrouverte, les rideaux à moitié fermés. Et en principe, les clients, ils ont l'habitude, vous voyez, ils ont l'œil. Et puis en principe, ce sont surtout des habitués, vous voyez, qui viennent là. C'est pas la grande foule, hein. C'est des retraités, quelques célibataires après le boulot, enfin. Moi, je ne prends que les hommes de mon âge. C'est vrai en plus. Puis je vais vous dire sincèrement, ça me gêne un peu maintenant, vous voyez, quand on n'est plus toute jeune. Enfin, à part quelques-uns que je connais vraiment, qui sont gentils et respectueux, il y en a quelques-uns, les autres, je n'en veux pas. Mais non, je leur dis non, mon petit, ne te vexe pas, je monte qu'avec les hommes de mon âge, les retraités. D'accord. C'est vrai, hein? Tous ces jeunes qui viennent demander, en général, ce sont des jeunes, comment vous expliquer, ils font exprès de nous emmerder, de nous défoncer, de se retenir, ils nous font chier. Vous voyez ce que je veux dire?
Non, pas bien.
Mais ben si, quand si vous leur faites une fellation, il y en a pour 100 ans. S'ils veulent tirer un coup, ils se retiennent, ils vous sautent sur le ventre, il y en a pour 100 ans. Eh ben, quand ils font l'amour, tagada, 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 alors au lieu de jouir tout de suite ou raisonnablement, si on se laisse faire, ça dure un temps infini. Moi, ça me plaît pas, moi, quelle horreur. J'ai dit, mais non, mon petit, mais non. Je fais que les retraités, moi, tu vois, les hommes de mon âge. Oh, ben, on n'est pas là pour rester 160 ans, hein. Bon, quand même. Ils tirent leur coup, quelques allers-retours, et puis terminé, vous voyez.
Ah, on en apprend avec Irène, hein. On en apprend de belles avec Irène. Et revoilà les jeunes des quartiers. Oui, les jeunes des quartiers, ils veulent payer, mais ils veulent que ça dure. Alors que les retraités, allez hop, voilà, ça s'arrange comme ça. On en apprend beaucoup, on en apprend sur... sur la condition humaine, tout simplement. Eh oui, ça s'appelle la condition humaine. Et c'est la vie d'Irène dans son camion.
Et vous restez avec la jambe allongée quand vous attendez le client? Vous prenez une pause?
Oui, j'allonge ma jambe comme ça parce que je suis bien pour la circulation, c'est bien.
Ah, la circulation de vos jambes?
Voilà, je pense à moi, hein. Ou alors je me mets comme ça, vous voyez, un peu comme ça.
Et les photos, qu'est-ce que c'est, là, les posters?
Des femmes, des posters que j'ai achetés. C'est un peu érotique, c'est pas cochon, hein.
Mais elles sont toutes blondes, hein?
Ma foi, elles sont blondes, oui. Ouais, ouais. Ils ont le fantasme de la blonde. Oui, oui, au fantasme de la grande blonde, oui. Il n'y a rien à faire, je sais pas pourquoi.
Oui, puis vous êtes grande en plus, hein?
Oui, je suis grande, oui. 1m72. Et alors, ce qu'ils aiment surtout, c'est les seins.
Ah ouais.
Oh là là, qu'est-ce qu'ils aiment les seins, j'en reviens pas. Hein. Ils sont en adoration devant mes seins, dites, pourtant ils n'ont pas été refaits, mes seins. J'ai ma copine qui travaille avec moi, elle a les seins qui traînent par terre, voyez, des seins énormes, de mouse, de... Vous voyez, c'est pas pour la critiquer, mais... Comment je pourrais vous dire, si vous voyez ces femmes-là qui ont des seins debout, vous voyez, qui ont des gros seins... Là, les grosses mamelles qui traînassent par terre, vous voyez ce que je veux dire?
Vous n'êtes pas très tendre, hein, pour vous.
Ah ben, je ne suis pas tendre, mais elle n'est pas non plus avec moi, mais c'est la vérité en plus. Mais les hommes, elle a beaucoup de succès, elle a plus de succès que moi en ce qui concerne les seins. Vous voyez, c'est ce que je veux vous dire.
Vous avez de la musique, non?
Non, là-dedans, c'est pas le moment.
Je peux vous demander un détail technique?
Oui.
Quand vous travaillez, oui. Mais que vous ne faites pas l'acte?
Oui.
Je vois que vous avez du rouge à lèvres.
Oui.
C'est pas gênant?
Aussi, mais je les suis après, vous voyez ce que je veux dire? Ben, selon les rouges à lèvres que je mets, quelquefois, oui, ça me gêne un peu, ça déborde ou n'importe, mais je me regarde dans la glace, j'essuie, puis j'en remets, vous voyez? Mais bien sûr. Mais on leur met des préservatifs, hein. Ouais. Pour tout, hein, vous voyez. Même pour une fellation, des préservatifs. Ou alors, s'ils veulent se masturber tout seuls et qu'on les touche pas, on leur en met pas, ils se débrouillent tout seuls. Vous voyez, puis on fait voir un peu ses appâts, quoi, pour les exciter.
Tant qu'à payer, ils pourraient consommer, hein.
Il y en a qui aiment ça, hein, faut pas croire. Hein. C'est très complexe, le domaine de la sexualité. Nous, on est bien placés pour en parler, hein. Dans ce domaine-là...
Qu'est-ce qui se passe? Ah, dites donc, je crois que vous avez un client.
Je sais pas, non, il se gare, mais bon, attendez.
Attendez, allez-y.
Oui.
Alors?
Une.
Bah, il a dû me voir.
Qu'est-ce que tu veux, mon petit lapin? Non, mais la dame, elle en fait pas partie. T'aurais voulu? J'ai pas envie de travailler. J'aime mieux qu'on continue. Alors voilà. Et puis on est là, on est en train de boire un petit coup et de manger un petit bout et on est bien. Je peux émettre un souhait. J'aimerais bien finir, par exemple, mes jours en Bretagne, entre autres, être gardienne de, pas gardienne de phare, parce que je sais que ça n'existe plus, mais quoi que ça m'aurait bien plu, avec mon chien, garder une propriété, etc., avec des animaux, des choses comme ça. J'aimerais bien. Voilà, c'est tout. Je dis la Bretagne, mais enfin, ça peut être ailleurs. Je serai la plus heureuse des femmes.
C'était Irène et son camion, un reportage de Anne Rioux pour l'émission La Passe, j'y suis, de Daniel Mermet. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Jean-Noël Vélon et Cédric Lalanne. Cette émission a été réalisée par Yann Chouquet et Koyan Nguyen, assistée de Charlotte Perry. Et le chef du répondeur Christophe Imbert attend avec impatience vos messages au 01 56 40 37 37. Ah, oh,